France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils sont venus alors qu'ils savent qu'ils seront trempés en sortant de l'émission, parce que depuis le début de la semaine, il y a un orage à 21h après les informés. Voilà, alors jusqu'à quel point cette émission influence-t-elle la météo? Certains prétendent que nous sommes les fils de Thor. Bon, on va pas si loin, peut-être seulement d'Evelyne Delia, voilà. En tout cas, ils sont prévenus, hein, bravo à vous. Et ce soir, donc, les informés de France Info reçoivent le journaliste européen Alexis Poulain, bonsoir.
Bonsoir.
Également Audrey Goutard, bonsoir.
Bonsoir.
De la rédaction de France Télévisions, Romain Dessalle, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez la lettre Time to Sign Off. Et également Éric Métou, bonsoir,
bonsoir,
de l'Express. Et ce soir, on parlera de cette intrigue à la John Le Carré en Ukraine. On parlera de Jean-Luc Mélenchon, une nouvelle colère. Un PowerPoint et un classe-croûte pour les ministres. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Un petit enfer, voilà comment certains occupants qualifiaient le site du millénaire situé Porte de la Villette à Paris, dans le nord-est de la capitale. Un peu après 6 heures ce matin, CRS, militants associatifs et agents préfectoraux ont œuvré à l'évacuation du plus gros campement de migrants à Paris, un total. Alors, voilà, on évalue ce soir donc à peu près de 1016 personnes qui ont été évacuées, majoritairement originaires du Soudan, de la Somalie ou de l'Érythrée. 500 migrants seront hébergés dans Paris dans des structures d'accueil, principalement dans des gymnases mobilisés pour accueillir les personnes évacuées. Les quelques 500 migrants restants seront, eux, acheminés vers des structures en Île-de-France. Il s'agit de la 35e évacuation avant celle prochaine de deux autres camps à Paris. Une situation effrayante de précarité au cœur d'un bras de fer entre la mairie de Paris et le gouvernement, chacun se rejetant la gestion des campements de migrants. On va écouter la maire de Paris, Anne Hidalgo.
Je pense qu'on aurait pu ne pas attendre 4 mois pour mettre ces personnes à l'abri. Toujours est-il que la proposition que j'ai faite à l'État, c'est de pouvoir construire, reformer un centre d'accueil, comme nous l'avions à la Porte de la Chapelle, qui est la seule, mais vraiment la seule option possible si l'on veut éviter les campements de rue. Donc j'attends bien sûr les réponses de l'État en ce sens.
Voilà, la maire de Paris, Anne Hidalgo. Audrey Goutard, cette demande, on l'a entendu, là, était une demande donc de longue date, cette évacuation, pardon, était une demande de longue date de la mairie de Paris. Est-ce que le gouvernement a fait durer, parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment un bras de fer politique entre Gérard Collomb et Anne Hidalgo?
Alors, il faut savoir quand même que ce bras de fer existe depuis avant Gérard Collomb, hein. C'est depuis toujours, en fait, il y a le problème de investir ou pas dans ce type de bâtiment, pérenniser l'idée que effectivement, il y a des migrants, il va falloir les gérer, on les met dans des centres, on construit des centres. Donc ça, c'est toute une politique de long terme qu'il faut avoir et que jusque-là, les gouvernements n'ont pas eu. Alors c'est vrai que la maire de Paris se débat avec ça. C'est vrai que elle aussi a des centres d'accueil dans lesquels elle peut accueillir. Les centres d'accueil ne sont pas tous pleins, hein, dans ces centres de la ville de Paris. Donc elle aurait pu aussi gérer cette.
Mais là, en fait, elle parle du centre d'accueil parce qu'il a fermé Porte de la Chapelle. C'était le 31 mars dernier.
Oui, hein, absolument.
Ça a duré un an et demi. Et ça a accueilli 25 000 personnes pendant un an et demi.
Oui, c'est vrai. Mais vous avez vu la rapidité avec laquelle on a réussi à trouver une solution là pour ces 1100 migrants. Et ils sont accueillis, etc. En fait, c'est tellement une lame de fond et un problème de fond qui est l'accueil des réfugiés, notamment parce que parmi ces migrants, il y a des demandeurs d'asile et il va falloir les gérer. Il y a aussi des gens qu'il va falloir traiter autrement, c'est-à-dire se dire, qu'est-ce qu'on en fait? Ils n'ont pas le droit de rester en France. Et tout ça, c'est un problème que personne ne veut vraiment aborder.
Oui, Éric Métou, est-ce que ça, on ne veut pas l'aborder ou est-ce que c'est devenu un enjeu politique très bas de terre, quand on voit la situation de précarité?
On ne veut pas l'aborder depuis que la France a refusé de prendre sa part de quotas en Europe. Enfin, si on doit remonter encore un cran plus haut, on ne résoudra pas le problème des migrants en revenant régulièrement vider des camps pour les mettre dans des structures provisoires dont une partie d'entre eux va partir pour revenir dans des camps parce que de toute façon ils sont dans des situations telles que c'est pas possible de faire autrement. Il y a des nouveaux qui vont arriver, enfin c'est ingérable. C'est ingérable et effectivement personne ne prend le problème, et en plus là c'est devenu un enjeu de basse politique.
Oui, c'est ça.
Non seulement de basse politique, mais même, je pense que c'est des querelles de personnes, parce que l'opposition, la rivalité entre Gérard Collomb et Anne Hidalgo, elle date du PS, quand il était déjà en guerre
à l'intérieur du PS. C'est vrai qu'on oublie tant qu'il était au PS.
C'est la guerre entre Lyon et Paris, et tout ça sur le dos de ces pauvres gens, en même temps, il faut qu'on se réjouisse de ça, enfin, ce qui s'est passé ce matin, au moins, effectivement, ils sortent de l'enfer.
Oui, c'est ça, Alexis Poulain.
dire qu'ils sortent de l'enfer, je sais pas, on sait pas, disons que
enfin,
c'est une prochaine étape, on sait pas où ils vont. C'est des humains qui sont traités effectivement comme une variable de guerre politique, comme on disait, entre plusieurs factions, en disant personne veut s'occuper de l'accueil. Ça fait combien d'années qu'on entend ces promesses de places qui vont s'ouvrir, de centres qui vont s'ouvrir? Là, on dit qu'ils vont être mis à l'abri. Alors, c'est cette formule de la novlangue. Mmh. Hein, j'ai fait une tribune sur la langue de vent de Benjamin Griveaux. Cette mise à l'abri, c'est des gymnases en région parisienne pour justement aller plus vite avec la CADA, pour traiter les dossiers administratifs. Une promesse aussi de dire il faut effectivement que ces gens-là aient un accès à l'administration en disant alors, vous avez le droit de rester ou pas, vous êtes dubliné ou pas, vous pouvez rester sous tel cadre. C'est scandaleux, ce traitement des migrants en France, mais comme ailleurs. Enfin, en Grande-Bretagne, il y a eu le scandale récemment de Winders, de tous les gens qui venaient du Commonwealth, qui n'avaient plus de papiers, qui n'étaient plus vus comme étant britanniques. C'est un scandale européen. La pression migratoire, elle va pas s'arrêter, même une fois qu'on aura, et je l'espère, la crise en Syrie réglée, le sommet sur la Libye, etc.
C'est un problème européen, mais c'est un problème mondial. Est-ce que depuis cette répartition, est-ce que l'Europe avance? Est-ce qu'on en discute?
Non, l'Europe, on ne discute pas. La commission Juncker, en dessous de tout, ça devait être la commission de la dernière chance politique. 5 ans pour des sommets les uns après les autres. Alors la commission, on peut lui dire, elle fait pas le boulot. Elle a proposé les quotas, elle a proposé des choses. Ouais. C'est le Conseil qui derrière dit, attendez, nous après, on va voir. Et puis vous avez Orban, vous avez... c'est aussi la chance des populismes.
Mais sur Romain de Salles. Ouais, mais sur l'Europe, ce qui était très intéressant, c'est qu'hier, Soros était à Paris, il parlait de risques existentiels sur l'UE, il disait, et d'ailleurs, c'est plus du tout une figure de style, c'est vraiment un risque existentiel. Et le premier chantier qu'il identifiait, c'était celui des migrants. Il disait, la première chose par laquelle devrait commencer l'Europe pour protéger son avenir, c'est d'adresser le problème de l'Afrique en mettant un plan Marshall, il proposait 35 milliards de dollars par an, un plan Marshall pour l'Afrique. Et la question des migrants est au centre, absolument au centre, pour lui, du risque létal que court l'Union européenne.
Alors on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
Et la moitié de la métropole attend ou subit déjà les orages. 42 départements sont ce soir en alerte pluie, orage, inondation. Météo France a rajouté l'Indre-et-Loire à cette longue liste qui va de la façade pyrénéenne jusqu'au Grand Est en traversant le centre de la France. Le journaliste russe Arkady Babchenko est vivant et parle en conférence de presse. Le gouvernement ukrainien déclare que c'était un coup destiné à déjouer un complot russe visant à tuer ce journaliste très critique du pouvoir. Montré du doigt, Moscou vient de dénoncer une provocation anti-russe. La piste terroriste toujours privilégiée après l'attentat hier à Liège. Les enquêteurs belges ont donné des précisions ce matin après cette attaque qui a fait 3 morts dont 2 policières et l'assaillant abattu. Cet homme de 31 ans était un petit délinquant radicalisé, mais il n'y a toujours pas à cette heure de revendication. Le trafic de drogue génère 2,7 milliards d'euros par an en France et 21 000 emplois à temps plein. Ce sont les calculs de l'INSEE qui a choisi d'intégrer pour la première fois cette activité illégale au produit intérieur brut. L'Assemblée nationale vote le projet de loi agriculture et alimentation, 339 voix pour, 84 contre. La conclusion de 8 jours de débats animés. Pour la majorité, le texte entend rééquilibrer les relations commerciales au profit des agriculteurs. Il vise aussi à promouvoir une alimentation plus saine et durable.
France Info. 20h, 21h. Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info ce matin, évacuation du plus grand camp de migrants situé à Paris dans le nord-est de la capitale, une situation terrible et effrayante. Il fallait véritablement agir. Il y a au cœur aussi de cette évacuation une dispute politique entre le gouvernement et la mairie de Paris. Audrey Goutard, vous vouliez réagir?
Oui, dans ce tableau très sombre, et il est sombre effectivement, je voulais quand même rajouter un petit point, une petite lumière. C'est depuis cette année, vous savez qu'il y a eu, pour éviter justement que les migrants se retrouvent dans des filières, arrivent jusqu'à Paris et se retrouvent finalement sous nos ponts. Il y a la création au Niger notamment de camps, de centres de tri, excusez-moi du mot qui n'est pas...
Non, mais le mot a été utilisé par le ministre
de l'Intérieur. Par le ministre de l'Intérieur. Effectivement, de lieux où on effectue un premier tri pour pouvoir sortir les migrants qui ont le droit notamment au droit d'asile, les sortir de là et les éviter qu'on les retrouve sur les ponts. Donc il y a quand même une réflexion, même si l'Europe n'est pas glorieuse dans cette affaire, il y a quand même une réflexion et notamment notamment du côté français, qui est intéressant.
La réflexion n'est pas assez poussée. Hier, il y avait le sommet sur la Libye. Il n'a pas été évoqué dans ce sommet le trafic humain, qui est un des problèmes fondamentaux. Absolument. En fait, les Érythréens qu'on retrouve sous les ponts, ils vivent un enfer avant d'arriver sous le pont.
Évidemment.
Passer par les filières de trafic, les camps de torture.
D'où l'intérêt des camps au Niger et des centres de tri au Niger.
Voilà, en amont. Mais c'est au-delà des camps. C'est vraiment, c'est quand est-ce qu'on va lutter contre les mafias? Quand est-ce que clairement, l'Europe va lutter contre les mafias.
Éric Métou. Enfin,
on peut lutter contre les mafias, on peut mettre des hotspots en Libye, on peut mettre des camps de tri au Niger, ça ne changera pas la donnée fondamentale qui est qu'il y a un endroit du monde où il y a beaucoup d'argent et un endroit du monde où il n'y en a pas du tout. Quoi.
Absolument.
Et qu'il y a des gens qui meurent et ça ne va pas arrêter l'immigration. Alors on peut commencer à la filtrer un petit peu au départ de l'Afrique, mais déjà compter, même Soros, enfin, je veux dire, le plan Marshall pour l'Afrique, c'est utopique. Il faut le faire, mais ça ne va pas régler le problème et ça ne va pas le régler à court terme, ça ne va même pas le régler à moyen terme. Aujourd'hui, il faut que l'Europe elle s'empare du problème et qu'effectivement on distribue en Europe de manière équitable, intelligente, pour éviter ce qui se passe en Italie. Je veux dire, la victoire de 5 étoiles et du fascisme en Italie, le retour du fascisme en Italie, ça n'est que ça. Et ça ne fait peur à personne. Je veux dire, au-delà du problème des migrants, c'est effectivement un problème politique et effectivement aujourd'hui c'est létal pour l'Europe, c'est létal.
Mais je suis d'accord avec ce que vous dites. Hein, c'est sur le fait qu'on n'adresse pas le problème fondamental qui est que la population mondiale a explosé, elle a été multipliée par deux dans le siècle, et que fondamentalement, le seul moyen de fixer les populations sur zone, c'est de nourrir leur développement. Or, qu'est-ce qui nourrit le développement et les finances des pays du Sud à l'heure actuelle? Ce sont les migrants eux-mêmes. Donc, la solution à empêcher les vagues migratoires incontrôlées, c'est aussi d'accepter des migrants. Parce que la Banque mondiale, fin avril, a publié les chiffres de transfert d'argent des migrants vers leur pays d'origine, qui permettent de faire fonctionner les économies des pays d'origine. C'est 3 fois le montant des aides Nord-Sud. Donc les plus grands contributeurs au développement des pays des pays du Sud, ce sont les migrants. Donc on voit bien que la solution du contrôle des flux migratoires, c'est aussi d'accepter les migrants.
Une dernière chose, vous parliez tout à l'heure de ce terrible mot de tri, et c'est en février que Gérard Collomb a utilisé ce mot, parce que si on revient à des histoires purement politiques, en février Gérard Collomb disait, je cite, « Je suis obligé de faire un tri entre migrants réfugiés et migrants économiques en prenant l'exemple de l'Allemagne qui a vu débarquer 92 députés d'extrême droite. » C'est toujours cet argument-là aussi.
Mais il vaut mieux qu'ils meurent de faim ou qu'ils meurent dans des conflits armés. Enfin, je comprends pas ce distinguo entre migrants acceptables et migrants inacceptables.
Alors, bien sûr, il y a ça, mais il y a aussi l'idée pour les politiques, et on se souvient de Manuel Valls également avait dit ça en disant, voilà, si on accepte ça, ça veut dire que les populistes.
Mais l'Europe est la région du monde la plus riche du monde. Mais on a largement les moyens d'encaisser un afflux migratoire comme celui qui existe aujourd'hui et qui effectivement n'est pas régulé. Effectivement, la seule solution, c'est d'ouvrir les portes. Après, selon quelle modalité, c'est plus difficile. Mais là, on crée quoi? On crée effectivement des pays comme la Pologne ou la Hongrie qui sont en train de devenir, enfin, retourner à l'âge de pierre. On crée les élections politiques en Italie. On est en train de faire exploser l'Europe. Tout ça pour strictement de l'idéologie. Alors, économiquement, ça ne tient pas.
On voit bien que ce n'est pas le nombre qui pose problème. On a accueilli, après tout, 200 000 Indochinois dans les années 80. Ça n'a posé problème à personne. Le problème, c'est la façon dont on gère l'accueil, dont on accueille les gens. Et la montée, Eric, vous parliez de la montée des populismes, du populisme en Italie, parce qu'effectivement, les migrants, le problème, le dossier des migrants n'a pas été géré correctement. Ils se sont retrouvés avec un afflux.
Par l'Europe.
Les Italiens ont fait ce qu'ils ont pu, mais le fait est, c'est que voilà. Donc c'est vraiment un problème de gestion. Et c'est vrai qu'on peut reprocher à Gérard Collomb d'utiliser un langage de gestionnaire, mais en même temps, c'est vrai que la montée des populismes, c'est aussi ça.
Je dirais pas, pas par l'Europe, par les pays européens.
Ouais, deux choses, la politique européenne aussi d'austérité, qui va dire le populisme, il y a deux choses. Il y a une jambe économique et après, les migrants ont bon dos. Et il y a un problème aussi, c'est qu'on ne peut pas vouloir que son pays soit ultra attractif pour les investisseurs et dire que pour les travailleurs du monde, finalement, non, toi, tu ne peux pas venir. Enfin, ce tri-là, il n'a pas de sens. Si on veut que les traders viennent, alors à ce moment-là, il va falloir aussi des gens qui viennent pour tenter leur chance dans des pays comme la France.
Allez, on va revenir revenir justement sur la politique hein, pure et dure, parce que vous le savez, généralement, un séminaire d'entreprise, ça se passe dans un hôtel de bord de National, à petit budget, bon voilà, équipé d'un business center. Bon, en fait, un business center, c'est un ordinateur, une imprimante et une salle de réunion. Hein. On part avec le véhicule de société, on fait les déglingos avec les types de la compta, on attend le karaoké, c'est génial. Bref, au gouvernement, les séminaires, c'est un peu différent. Voilà. Parfois, ça se passe en région. Aujourd'hui, c'était à l'Élysée. Pour commencer, Édouard Philippe fait toujours la même blague, lui tire sur mon doigt, et puis après, c'est studieux. Au menu, cette fois-ci, le calendrier des réformes pour les 3 prochains mois, les économies dans la dépense publique et la cohérence gouvernementale. Cohérence gouvernementale, un terme plus poli que « mais vous allez la fermer, oui ?» Puisqu'après Gérard Collomb et ses étranges sorties, la brouille entre le ministre de l'Agriculture et Nicolas Hulot, la passe d'armes entre Bruno Le Maire et Gérald Darmanin sur les aides publiques. Bref, il faut que l'on retrouve la Dream Team qui a fait nos beaux jours. Et à la sortie, le Premier ministre est revenu sur le sujet des aides sociales, pas vraiment tranché, Édouard Philippe.
Là encore, non pas se poser la question de savoir s'il en faut plus ou moins, mais de comment est-ce qu'on peut atteindre les objectifs qu'on se fixe et avoir un système social efficace, qui passe par le travail. C'est ça l'objet du constat, et c'est ce que partage l'ensemble des membres du gouvernement.
Voilà, donc Édouard Philippe. Alors avant de rentrer justement dans les brouilles gouvernementales, Romain de Salles, on sent bien que ça commence à monter, cette histoire d'aide sociale, depuis hier, notamment Gérald Darmanin, qui disait « je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a trop ». Voilà. Et est-ce que aujourd'hui là, ça va devenir un souci? Et notamment, on le sait que depuis les APL, ce sont des dossiers explosifs quand même.
Ouais, mais alors déjà que Gérald Darmanin dise qu'il y en a trop, c'est quand même pour lui se tourner le dos à sa famille politique. C'était un gaulliste social, il est devenu ministre du budget, il devient comptable. Donc moi, je constate ça. Sur les aides sociales, c'est quoi la situation? En France, on a à peu près 34%, ça représente à peu près 34% du PIB. 31%, excusez-moi, 31%. Mmh. On est 10 points au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Donc oui, on est plus élevé, très très notoirement, plus élevé que la moyenne de l'OCDE. Qu'est-ce qu'on voit aussi? C'est que ces aides sociales, elles marchent pas si mal en France. La France est le seul pays de l'OCDE où, dans les 20 dernières années, les inégalités n'ont pas explosé. Donc on peut dire ce qu'on veut, mais il y a un modèle social français qui se paye peut-être d'une croissance plus faible en France, c'est bien possible, mais où les aides sociales jouent leur rôle d'amortisseur et d'aplanissement des inégalités. On est le seul pays où ça n'explose pas.
Alors on va continuer à en parler dans un instant de ces aides sociales et des couacs gouvernementaux. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Et Reporters sans frontières parle d'une simulation navrante. Son secrétaire général Christophe Deloire le dit sur France Info après cette annonce. Le reporter russe réfugié à Kiev, Arkady Babchenko, est bien vivant et apparaît en conférence de presse. Le gouvernement ukrainien déclare que l'annonce de sa mort était un coup destiné à déjouer un complot russe visant à le tuer. Après la mort d'un enfant de 9 ans hier dans l'Aisne, le procureur de la République précise que le principal suspect conteste son implication, mais il est le dernier à avoir vu l'enfant vivant. L'autopsie confirme que le corps du petit garçon présente des traces de viol. Les drapeaux en berne dans plusieurs villes de Belgique à la mi-journée. Un hommage aux 3 victimes de la tuerie d'hier à Liège par un homme radicalisé de 31 ans. Il a tué notamment 2 policières. Il aurait commis un autre meurtre la nuit précédant cette attaque. La piste terroriste reste avancée par les enquêteurs. Emmanuel Macron veut réformer l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Le président de la République souhaite lancer des négociations entre l'Union européenne, les États-Unis, la Chine ou encore le Japon. Une annonce à quelques jours de la mise en place des taxes américaines sur l'acier et l'aluminium. Et puis la consultation des sages-femmes revalorisée. Elle passera l'an prochain de 23 à 25 euros. Le texte a été signé aujourd'hui entre l'assurance maladie et les syndicats. Un gain total de 22 millions d'euros pour les 5400 sages-femmes libérales en France.
France Info. 20h, 21h. Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info aujourd'hui, c'était séminaire pour le gouvernement. C'était pas très loin, hein. C'était à l'Élysée. Et puis on a parlé de beaucoup de choses, de cohérence gouvernementale et notamment également, eh bien, d'argent public et d'aide sociale. Vous le savez, hier, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, a déclaré sur RTL qu'il ne savait pas combien il y avait d'aide sociale en France, mais qu'il y en avait trop aujourd'hui. Et aujourd'hui, Édouard Philippe nous dit, c'est pas qu'il y en a trop, c'est qu'on peut mieux faire. Voilà. Donc il y a un problème de vocabulaire. C'est vrai qu'Audrey Goutard, on sent bien que là, alors soit on prépare quelque chose,
voilà, c'est souvent ça comme ça qu'on prépare quelque chose.
Mais est-ce que finalement, il n'y a pas un peu d'emballement aussi quand Bruno Le Maire nous dit, ah ben, ça tombe bien, il y a moins de chômage, donc il n'y a plus besoin d'autant d'aide sociale.
J'ai compris que Bruno Le Maire était un ministre assez indépendant et qui n'hésitait pas à prendre la parole ou à dire des choses, quitte à gêner ses camarades. au jour d'aujourd'hui, on a l'impression, on a déjà vu, c'est un peu une répétition de situations qu'on a déjà vues, et je pense que les Français doivent plus être étonnés de voir ça. C'est qu'on tente à quelque chose, ils lancent une idée comme ça en l'air, ça, on voit comment ça retombe, et puis après, vous avez Agnès Buzyn qui dit, oh, mais non, mais c'est juste un rapport de travail, un document, etc. C'est, voilà, c'est intéressant, il y a effectivement un fonctionnement comme ça qui, bon, voilà, j'ai perdu le mot que je cherchais,
mais
ballon d'essai, et puis on voit comment ça retombe, et généralement, voilà, Emmanuel Macron prendra la parole en dernier et dira ce qu'il faudra.
C'est ça. Alexis Poulain.
C'est aussi la patte du maître des horloges. Enfin, on voit qu'on annonce une séquence de transformation sociale. C'est les mots du Premier ministre avant l'été, pendant l'été, en disant qu'on n'arrêtera pas le travail en juillet et en août. Et à la rentrée, je pense que les vacanciers vont peut-être avoir une petite surprise. C'était quelque chose qui était prévu en février, ce rapport sur le service public 2022. Ouais. On l'a laissé sous les cartons. Le fait de dire... on va toucher, bien sûr, à la santé, à la retraite. C'est le truc auquel on ne touche pas en France. Enfin, c'est le sujet, quand même, la retraite et l'assurance maladie, l'assurance santé. Ça va devenir extrêmement compliqué. Je pense que le faire en juillet et en août, c'est malin. Reste à voir ce qui va être fait et comment va être vendu l'enrobage, le package. Après, dire que la solution sociale en France, c'est le travail, ça me paraît être totalement idéologique.
C'est vrai qu'Éric Métou, on voit qu'il y a, concernant la politique sociale du gouvernement, on sent bien qu'il y a des couacs à chaque fois. Voilà. À chaque fois qu'on met en place quelque chose, c'est moins simple que pour d'autres sujets.
Je suis pas sûr que ce soit des couacs.
Oui.
Moi, je suis plutôt partisan de la théorie du ballon sonde. Oui. C'est-à-dire, on lance une idée, on voit ce que ça donne. Et puis, d'ailleurs, c'est pas tellement qu'on voit ce que ça donne. On attend qu'elle arrête de frémir. Puis quand elle arrête de frémir, on la prend, quoi. Donc, je pense que c'est un peu de cet ordre-là. Ce qui était intéressant dans le discours de Gérard Philippe tout à l'heure, c'est qu'il parle d'objectif.
Édouard. Christophe Colomb, Colomb, voilà.
Édouard Philippe, il parle d'objectif. Après, ce qu'on voudrait savoir, c'est quoi les objectifs? Est-ce que les objectifs, c'est de baisser la pauvreté, ce qui serait un bon objectif, et de dire qu'il y a trop d'aides sociales? Alors, baisser les aides sociales et dire qu'il y a trop d'aides sociales, c'est pas tout à fait la même chose. Le maire et Darmanin n'ont pas dit exactement la même chose. Mais si l'objectif c'est de rétablir les comptes, c'est pas la même chose que de dire il faut baisser la pauvreté. Après, je voulais juste répondre une chose. C'est qu'effectivement, la France encaisse bien, mais ça c'est historique, ça date depuis. C'est très 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 ancien. On caisse bien les crises économiques à cause de ça. Il y a moins de pauvreté. En même temps, on a quand même pratiquement 10% de chômeurs. Donc bon, il faut aussi relativiser
Je disais.
Romain de Salles.
Démonstration des chiffres.
Ce que je disais, c'est que les inégalités n'explosent pas. Les inégalités n'explosent pas. Et la pauvreté n'explose pas, alors que le chômage explose.
Oui, mais le chômage explose.
La pauvreté reste assez maîtrisée. On a un niveau de pauvreté qui est un petit peu inférieur à celui de l'Allemagne. Où il y a pas de chômage. Mais dont acte. Ça se paye, ces aides sociales, le montant de ces aides sociales se paye d'une croissance, d'une inhabilité de l'économie française à profiter des vents de croissance. Ça c'est certain.
À qui profite la croissance, c'est ça la question. Parce que sur la pauvreté, je pense pas que la croissance aille dans la poche. Enfin, au-delà de la théorie du ruissellement qui n'existe pas, le fait de dire que un travailleur sera non pauvre, c'est aussi pas une réalité. Enfin, en Allemagne, les travailleurs pauvres, c'est une réalité. Bien c'est sûr. Une réalité en Angleterre. Une réalité française prochainement.
Audrey Goutard, est-ce que finalement aussi ce genre d'annonce, même si ce sont des ballons d'essai, on sait bien que Emmanuel Macron essaye apparemment de se défaire cette étiquette de président pour les plus aisés. Est-ce que là, de nouveau, on n'appuie pas là-dessus en disant, je sais pas combien il y en a d'aide sociale, mais il faut en supprimer.
Vous avez lu mes confrères, tout le monde parle de cacophonie. Cacophonie, parce qu'effectivement, et la cacophonie, c'est pas bon, surtout dans ce domaine-là, lorsqu'on parle du portefeuille des gens, lorsqu'on parle des aides qu'ils reçoivent, ça insécurise, et puis surtout, ça insécurise ceux qui ont le moins. Évidemment, vous avez tout à fait, ça redonne à Emmanuel Macron, effectivement, ce profil, ce costume de président des riches.
Romain Dessin.
Et en l'espèce, surtout, ce qu'on reproche, enfin le dérapage qu'on reproche, c'est celui de la prime d'activité. Et la prime d'activité, c'est un succès que pourrait revendiquer Emmanuel Macron, parce que pourquoi on est passé de 4 à 6 milliards en prime d'activité? Parce que la France embauche, parce qu'il y a des gens, donc il y a plus de récipiendaires de.
Mais l'idée, c'est vraiment de trouver des économies partout,
Mais c'est celle-là qui est dans l'œil du viseur.
Alexis Poulain,
c'est vendre une politique d'économie sous un plan, ne pas employer le mot austérité, contrôle de la dette, contrôle des dépenses, en disant que là, on a un plan, on va changer la transition. Enfin, ce vocabulaire-là qui est important, hein, enfin, sur la tribune de dimanche de Griveaux, moi, elle m'a choqué. Parce que c'était vraiment flirter avec ce que peut être le réel et ce qu'on vend. Derrière, ce qui est promis, c'est la financiarisation des services publics. C'est dire, vous aurez un guichet unique ou finalement, vous serez un consommateur alors, comme un autre de services publics. Alors, les services publics, c'est autre chose.
On va continuer à en parler dans un instant. On parlera également de Jean-Luc Mélenchon, voilà, avec ses petits ennuis judiciaires qui se profilent. On ira aussi en Ukraine, voilà, avec l'histoire la plus improbable de la journée. Voilà à la suite du programme à venir pour les informés de France Info.
Et si travailler avec l'international devenait un jeu d'enfant?
Tu sais qu'avec mon forfait Orange Pro, j'appelle en illimité vert et depuis toute l'Europe.
Ouais, et ben moi, avec mon forfait Orange Pro, je peux contacter mes fournisseurs au Brésil et en Russie.
Ah bah moi, grâce à tous mes gigas, je peux travailler sereinement avec mes clients aux States, hein.
Ah ouais, tu parles anglais toi maintenant?
Avec Orange, travaillez plus facilement avec l'international grâce à la gamme Performance Pro. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr.
Jeudi 31 mai et samedi 2 juin à 20h, Emmanuel Krivine dirige l'Orchestre National de France dans deux grands classiques de la musique russe. La puissante 5e symphonie de Tchaïkovski et le 3e concerto pour piano et orchestre de Prokofiev, interprété par Béatrice Rana. Et comme entrée en matière, Foule du compositeur français Pierre-Octave Ferro. Réservation maisondelaradio.fr. Auditorium de Radio France. Entrée au cœur du concert.
France Info Météo, avec les agences meilleurtaux.com, crédit immobilier, assurance de prêt, 280 agences meilleurtaux.com à vos côtés, partout en France.
Et à Météo France, on retrouve Jean-Pierre Hameau.
Les orages parfois forts restent d'actualité ce soir et une bonne partie de la nuit, du sud-ouest au nord-est du pays et jusque vers l'Île-de-France, justifiant ainsi la vigilance orange pour toutes ces régions. Demain matin, nous allons retrouver un temps orageux du Languedoc-Roussillon à la région PACA, des orages se propageant vers la région centre et jusqu'en Normandie, encore beaucoup de nébulosité de l'Aquitaine à la Bretagne et quelques averses côtières. En revanche, les éclaircies seront généreuses de la région Rhône-Alpes à la Bourgogne, de l'Île-de-France à la Picardie et de la région Grand Est à la Franche-Comté. Et n'attendez pas d'amélioration l'après-midi, les orages vont intéresser une nouvelle fois la plupart des régions. Seul le pourtour méditerranéen, les Pays de Loire, la Bretagne et la Normandie seront épargnés. Les températures au petit matin seront comprises entre 12 et 17 degrés, comptez 12 à Nevers, 17 à Nice, Toulon et Paris. Les maximales évolueront entre 17 et 27 degrés, avec 17 degrés à Aurillac et 27 à Strasbourg.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, présentait son plan pour les EHPAD. Les plus de 85 ans sont 1,5 million aujourd'hui. Ils seront près de 5 millions en 2050. 360 millions d'euros de crédit de 2019 à 2021, ce qui fait 143 de plus que prévu. Seront ainsi consacrés au recrutement de personnel soignant. 36 consacrés par ailleurs à la présence d'infirmiers la nuit afin de réduire les hospitalisations en urgence évitables. Loin d'être suffisant, dit pourtant Pascal Chanvert de l'Association des directeurs de maisons de retraite.
Malheureusement, les mesures à court terme sont extrêmement restreintes. Il y a beaucoup de mesures qui étaient déjà annoncées, qui sont dans la loi de finances pour 2018. Il y a quelques mesures nouvelles. Le fait qu'il n'y aura pas de diminution de moyens dans certains établissements, ça c'est positif. Pour le reste, il est annoncé quelques mesures supplémentaires qui ne vont même pas compenser la suppression des emplois aidés. Donc il faut qu'à court terme, la ministre complète ce plan, parce que ça ne suffit pas. Et puis il n'y a quasiment rien pour l'aide à domicile. Il est évoqué une réforme de la tarification. Il y a quelques moyens, mais ces moyens, ils donnent une minute par jour en plus pour les personnes accompagnées à domicile. Et il n'y a rien sur la revalorisation salariale des salariés de l'aide à domicile. On voit bien beaucoup d'insuffisances, même s'il y a de grandes ambitions.
Pascal Chanvert de l'Association des directeurs de maisons de retraite au micro France Info de Célia Kiré avec Laurent Groux. Garde à vue prolongée pour le suspect arrêté après la mort et le viol du petit homme, 9 ans, dans l'Aisne. L'autopsie a révélé qu'un traumatisme crânien était à l'origine du décès de l'enfant, dont le corps a été retrouvé lundi soir dans une maison abandonnée. Le suspect nie toute implication. De violents orages de grêle en Champagne la nuit dernière. 1 millier d'hectares de vignes, soit 3% de la surface totale du vignoble champenois, ont été détruits à 100% dans la Marne, la Haute-Marne et l'Aube. D'après l'interprofession, des centaines de vignerons seraient touchés. 42 départements ce soir encore sont en vigilance orange aux orages sur une large bande qui va du sud-ouest jusqu'à l'Alsace et la Lorraine. Près de 2,7 milliards d'euros et 21 000 emplois à plein temps. Voilà ce que pèse le trafic de drogue en France. D'après les calculs de l'INSEE, pour la première fois, l'Institut a choisi d'intégrer cette activité au PIB hexagonal. Et puis Eric Woerth se dit victime du système. L'ancien trésorier de campagne de Nicolas Sarkozy a été mis en examen hier dans l'enquête sur un financement libyen durant la présidentielle de 2007. Roland Garros, c'est terminé pour Benoît Paire, battu par le japonais Kei Nishikori, qui sera d'ailleurs le prochain adversaire de Gilles Simon, qualifié lui aux dépens de l'américain Sam Querrey. Jérémy Chardy, Julien Bento et Pierre-Hugues Herbert passent leur premier tour. Les matchs étaient encore à disputer, pour certains interrompus par la pluie. Et puis dernier qualifié, un Gaël Monfils.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, eh bien, ils se préparent comme jamais pour les festivals de l'actualité cet été. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent le journaliste européen Alexis Poulain, également Audrey Goutard, de la rédaction de France Télévisions, Romain Dessalle, dirigeant de la lettre Time to Sign Off, et Éric Métou de l'Express. Nous étions en train de parler du séminaire gouvernemental qui a eu lieu ce midi, tout simplement, à l'Élysée, pour parler eh bien, des projets à venir, des lois aussi à mettre en place et surtout de cohérence gouvernementale. Vous l'avez remarqué, depuis quelque temps, ça se tient plus trop. Hein, voilà, entre Gérard Collomb, qu'on n'arrête plus, tout simplement, entre surtout Nicolas Hulot et Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, là c'est un cas un peu complexe, notamment depuis hier et concernant la non-inscription de l'interdiction du glyphosate dans la loi. En décembre, à propos du ministre de la Transition écologique, Emmanuel Macron disait « il apprend les contraintes de l'exercice politique ». Alexis Poulain, il la sent bien passer, la contrainte de l'exercice politique, Nicolas Hulot, en ce moment.
C'est ferme ta gueule. Ouais, c'est ça, ouais. Les contraintes de l'exercice politique, c'est une ligne, une stratégie, et on voit bien particulièrement dans ce gouvernement, faut surtout pas qu'il y ait une tête qui dépasse. C'est vraiment l'exécutif qui va faire les choses, et c'est à l'Élysée que ça se décide, Matignon qui va être le chef d'orchestre, mais surtout pas de ministre qui prend la parole. Ça, oui. C'est l'angoisse à l'Élysée.
Éric Métou.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de têtes qui dépassent, justement, dans tous les sens. Ça a commencé par celle du jeune homme dont on parlait tout à l'heure, là, de Nicolas Hulot, quand même, qui l'ouvre de temps en temps. Effectivement, Collomb, n'hésite pas non plus à dire qu'il n'est pas d'accord.
Mais Collomb ne se fait jamais reprendre. C'est ça qui est étonnant, c'est que Gérard Collomb ne se fait jamais reprendre.
Mais parce que Gérard Collomb, c'est comme Ferrand, c'est le premier d'entre tous.
Après, on est au-delà de la reprise aussi, quand même, hein, parce que cet après-midi, il a dit que les migrants faisaient du benchmarking sur les systèmes migratoires des pays.
C'est un naufrage, bien connu.
Ça devient compliqué quand même pour Gérard Collomb. Mais là, hier, le fait sur le glyphosate, c'est porté par Mathieu Orphelin, qui est un proche de Nicolas Hulot. On sent bien que c'est de non-retour, on a l'impression, non, Romain Dessalle, pour Nicolas Hulot, là.
Sur Nicolas Hulot, l'Obs faisait un article très bien fait hier sur le bilan hulotien. Donc le bilan de Nicolas Hulot au gouvernement, et en gros la conclusion c'était que la colonne des moins pour Hulot, des trucs insupportables, était bien plus importante que celle des trucs qu'il avait réussi à faire passer. Donc il a dit qu'il réfléchissait cet été à une démission. On voit pas le truc. Mais sur l'exercice du pouvoir, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Eric. Moi je trouve que on peut dire qu'il y a quelques couacs, etc. Mais je trouve que l'exercice du pouvoir de ce gouvernement est quand même très 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 maîtrisé et reste encore super maîtrisé. Moi, je vois pas de débordement, et surtout en regard de là où on vient, je trouve que l'exercice du pouvoir est assez maîtrisé. Bon,
alors là, on le voit quand même. Non, mais c'est vrai que les plus gros clashs, on va dire, c'est vraiment entre Nicolas Hulot et Stéphane Travers. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a deux là cultures qui s'affrontent, et ça a commencé dès le mois de juin dernier avec les abeilles notamment. C'est là, c'est vrai, Audrey Goutard, ça pose un souci parce qu'en plus Nicolas Hulot, c'est une pièce importante au niveau même communication pour le gouvernement. C'est la pièce.
Oui, et compliqué de ne pas avoir Nicolas Hulot au gouvernement ou de le voir partir. Donc, en même temps, il faut peut-être attendre de voir le résultat. Est-ce que dans 3 ans, même si ça n'est pas dans la loi, est-ce que dans 3 ans, comme ça a été promis, effectivement, il n'y aura plus de glyphosate le gouvernement continue à s'engager sur son calendrier, donc à voir.
Mais on sait à quel point la loi aussi peut être importante.
Enfin, voilà, même symboliquement. C'est un peu le « mais aussi », mais comment
c'est ça ?«
Mais en même temps », voilà. On le fait, mais en même temps, c'est pas dans la loi.
Tout le discours, c'est-à-dire « faut aller vite parce que les Français sont exigeants », etc. Et à chaque coup, quand on dit dit, oh non, mais on va attendre. Peut-être pas. Et puis, il y a quand même des choses qui sont extrêmement choquantes. Enfin, il y a eu le texte de projet de loi qui a fuité auprès des lobbyistes. Enfin, ça, c'est un truc, c'est inacceptable. Ouais. Comment on laisse passer ça sur les plateaux, ici ou ailleurs?
On ne l'a jamais passé à l'équipe.
Là, franchement, c'est inacceptable. Ouais, c'est vraiment quelque chose.
L'inanité des explications.
Non, mais l'inanité est inacceptable. Là, c'est une démission dans la balance. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous faites les lois avec les lobbies ouvertement. Et là, on vous laisse passer ça? Non, c'est inacceptable.
Il y a Yannick Jadot hier matin sur France Inter qui n'est pas un excité.
Hier, il était très énervé.
Voilà, qui était très énervé et qui a dit de travers qu'il n'était pas le représentant des lobbies, qu'il était lui-même le lobby.
Bien sûr.
Je pense qu'il n'a pas complètement tort.
Et surtout, il a sorti un terme très dur. Il a dit Semaine Travers est un négationniste écologique.
Le problème, c'est qu'on est, on est vraiment sur une question de fond, là. C'est-à-dire qu'on est entre le choix d'une agriculture raisonnée et la FNSEA.
C'est ça.
Et Travers, très clairement, il est FNSEA, il est grand producteur, il est productiviste.
Oui, alors, voilà. Du coup, quand vous êtes un écologiste et quand vous êtes Nicolas Hulot, qui est une vraie personnalité de ce monde-là, vous posez la question, est-ce qu'il vaut mieux être dedans ou dehors? On a bien vu, les écologistes, lorsqu'ils sont dehors, ils n'arrivent absolument pas à se faire entendre. Donc, même si on avale les couleuvres, est-ce qu'il ne vaut pas mieux être dedans?
Ils se font éteindre aussi. Enfin, ils ont jamais rien y gagné. Enfin, l'écologie, alors surtout l'écologie du gouvernement Macron, qui est une écologie de communication. Mais sur, il n'y a rien dans ce gouvernement qui donne des gages par rapport aux engagements écologiques de campagne. Mmh. Enfin, même le One Planet Summit, c'est bien gentil, alors, mais c'est pas ça qui va changer la donne sur l'enjeu climatique et écologique.
Moi, je pense que c'est l'éducation des Français qui est en train d'être faite. Et qu'effectivement, avoir un ministre écologique, même s'il n'a peu, il a peu de pouvoir, mais qui a quand même du charisme et qui explique, qui passe son temps à expliquer, à réexpliquer glyphosate, je pense que ça sert de toute façon.
Une dernière chose, Romain Desalles, ce mot séminaire, on dit souvent Emmanuel Macron est plus un manager qu'un président de la République. Est-ce que vous avez cette impression-là? Et il aime bien, lui, d'ailleurs, se montrer en tant que manager, comme le manager de la France. Est-ce que ce mot, voilà, séminaire appliqué, que finalement la France serait qu'une entreprise?
Bah écoutez, je sais pas. Moi je suis assez impressionné par Édouard Philippe. Je trouve que Édouard Philippe me semble avoir capté la fonction de Premier ministre dans un sens managérial, de direction générale, comme rarement auparavant. Donc oui, peut-être que c'est la culture macronienne.
Oui, Alexis Poulain, vous en pensez quoi, vous, de ce terme justement, quand t'es manager?
Bah, ça me donne des boutons, l'entreprise France. Non, c'est quelque chose de profondément dangereux de comparer un État à une entreprise. Parce que le but de l'entreprise, c'est le profit. Le but de l'État, c'est certainement pas ça. Mmh. Et de croire que la croissance est la solution de tout, que l'emploi est la solution de tout, c'est une solution, certes, mais certainement pas la seule solution. Donc c'est en ça que c'est extrêmement dangereux d'avoir cette vision uniquement économique de la chose publique, qui est pour moi assez récente, qui est très américaine, mais qui est une erreur fondamentale pour les nations, pour les États.
Allez, dans un instant, on va parler d'un homme qui n'est pas manager, qui dirige la France insoumise, qui va avoir des petits soucis. On va en parler dans un instant. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Le journaliste russe Arkady Batchenko est vivant et parle en conférence de presse cet après-midi. Le gouvernement ukrainien déclare que l'annonce de sa mort était en fait un coup destiné à déjouer un complot visant à tuer ce journaliste très critique du pouvoir russe. Le chef de la sécurité nationale ukrainien pointe du doigt les services spéciaux russes. Moscou vient de dénoncer une provocation anti-russe. La piste terroriste toujours privilégiée après l'attentat hier à Liège. Cette attaque qui a fait 3 morts dont 2 policières et le suspect abattu, cet homme de 31 ans, était un petit délinquant radicalisé. Il avait la veille tué un ancien co-détenu. La question n'est pas de savoir s'il y a trop ou pas assez d'aides sociales, mais si elles sont efficaces. C'est en ces termes que le Premier ministre tempère le débat initié ces derniers jours par plusieurs de ses ministres depuis Bercy. Édouard Philippe qui réaffirme que l'objectif est bien de contenir la dépense publique. 42 départements sont ce soir en alerte pluie, orage, inondation. Météo France a rajouté l'Indre-et-Loire à cette longue liste, une grande zone qui va de la façade pyrénéenne jusqu'au Grand Est, en traversant le centre de la France, avec un risque pluie-inondation plus marqué dans le sud-ouest et les Pyrénées. Et puis en 3-7 et 1h15 à Roland-Garros, Gaël Monfils a eu raison du Slovaque Klizian. Avant cela, Gilles Simon a écarté le 15e joueur mondial, l'Américain Sam Querrey.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors vous savez, il est courant de dire que la France Insoumise est mauvaise joueuse concernant la dernière présidentielle, qu'ils enragent d'avoir perdu. Bon, un an après, ça devrait se calmer. Mais j'ai comme l'impression que s'en amusent certains, alors on remet une pièce dans la machine, puisque maintenant ce sont les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon qui sont en cause. En fait, une campagne présidentielle, ça dure 5 ans. Hein. Le parquet de Paris a ouvert donc hier une enquête préliminaire sur les comptes de campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, confirmant des informations. La justice souhaite procéder à des vérifications. En avril 2018, le parquet de Paris a demandé à l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales de vérifier s'il y a ou non, je cite, une éventuelle violation des prescriptions du code électoral relative au financement des campagnes électorales. Alors, cette décision intervient après un signalement en date du 16 mars 2018 venant, de la Commission nationale des comptes de campagne. Cette même commission avait pourtant validé les comptes de campagne du candidat de la France insoumise à l'issue de l'élection présidentielle. Et forcément, ça ne plaît pas à l'insoumis en chef qui refuse la posture christique, Jean-Luc Mélenchon.
Bon, j'ai l'impression quand même que ça arrive à point nommé pour essayer d'entacher mon honorabilité. Je ne peux faire qu'une chose, répéter que j'ai conduit honnêtement et avec scrupule mon compte de campagne et mes dépenses. Je suis un peu surpris que la première diversion n'ait pas suffi. Hein. Vous savez qu'on a beaucoup parlé de mon compte de campagne, curieusement, pendant une assez longue période, et on ne savait rien sur les autres. En effet, les autres n'étaient pas accessibles. Depuis, ils le sont devenus, et plusieurs de mes amis sont allés voir sur place. Donc je préviens, je ne tendrai pas la joue gauche.
Voilà, donc Jean-Luc Mélenchon, Audrey Goutard, cette posture, on l'a vu aussi sur les réseaux sociaux aujourd'hui, beaucoup des proches de Jean-Luc Mélenchon disent « Ah, c'est marrant cette coïncidence, il y a un sondage qui dit qu'on est premier opposant, et paf, voilà, ça tombe, voilà, c'est une défense ».
C'est une défense, c'est politique, quoi. Enfin, c'est le jeu. Après, moi, ce que je vois, c'est qu'on ouvre une enquête préliminaire sur les comptes de Mélenchon, mais en même temps, Marine Le Pen aussi. Enfin, le problème est identique. Donc, est-ce qu'on ouvrira une enquête préliminaire aussi sur les comptes de Marine Le Pen? Et à ce moment-là, ça permettra de clore certains débats.
Oui, Éric Métou, Jean-Luc Mélenchon dit, c'est bizarre parce que Emmanuel Macron, lui, il y a eu des problèmes aussi, on n'a pas ouvert.
C'est drôlement bizarre parce que, en plus, c'est l'Express qui l'a sorti.
C'est
donc, et puis l'Express n'aime pas. Hein, de fait, enfin, comme d'ailleurs toute la presse, toute la presse qui est pas le média l'aime pas. Vous non plus d'ailleurs, vous l'aimez pas.
Non mais
c'est la défense habituelle, c'est complotisme, diversion. Après, c'est une enquête préliminaire. Enfin, il faut pas non plus en faire plus que ce que n'est. Vous parliez d'ennuis tout à l'heure. C'est pas encore des ennuis pour Mélenchon. Ce qui est bizarre, c'est tout l'enchaînement de l'affaire. C'est-à-dire que ça n'est sorti que parce que Jean-Guy Chalvron, qui était un consultant, un contrôleur de la commission, a démissionné en claquant la porte. Sinon, ça serait jamais sorti. La commission a validé les comptes de campagne, quand même, avant, en disant, mais après, ils vont le signaler. Enfin, tout ça est assez étrange. Et je pense que la question intéressante dans cette histoire, c'est pas tellement le cas Mélenchon, c'est pas tellement le cas Le Pen, c'est le problème de la commission nationale de contrôle des comptes de campagne qui visiblement fait son travail de manière un peu particulière.
Ça, on va en parler, Alexis Poulain.
C'est extrêmement opaque, en fait. On ne comprend pas, effectivement, pourquoi c'est d'abord les comptes de la France Insoumise qui sont épluchés, dans quel ordre, pourquoi ceux-là et pas ceux de François Fillon, ou pourquoi d'autres, pourquoi on ne prend pas les deux candidats qui sont finalement au deuxième tour. Bonne question. Alors la réponse c'était la pression médiatique. Non, sur les premiers à sortir, c'était bien ceux de la France Insoumise. Et la réponse de la commission de campagne a été, sous la pression médiatique, on a décidé de sortir ceux-là en premier. Certes. Alors, non mais cette opacité, elle est quand même dingue. Et Jean-Luc Mélenchon avait à l'époque répondu, plus de 2000 questions avec sa chargée de campagne, avait répondu aux questions, d'où la validation des comptes de campagne. Après qu'il y ait effectivement des questions, il en reste. Qu'il y ait une enquête, pourquoi pas. Mais alors cette enquête, elle doit être pour tous. Ouais. Mais le problème, il est chez Macron avec les rabais, avec aussi la façon dont ça a été financé chez Madame Le Pen. On va voir aussi chez Fillon. Enfin, il y a de l'histoire aussi chez LR sur la campagne. Pourquoi, comment fonctionne la commission des comptes de campagne? Ce monsieur qui a démissionné, qui était à la retraite, qui a une carrière politique derrière, fait ça aussi à dessein politique. Donc, évidemment, si la commission des comptes de campagne a un rôle politique post-campagne, alors là, il faut se poser des questions.
Elle n'a pas de rôle, surtout la commission. Elle n'a pas de rôle, elle n'a pas de moyens. Les trucs sortent finalement à son insu. Elle raccroche ses wagons.
Je pense que la sortie, c'est de monsieur Jean-Guy Chalvron avec sa démission.
Non, mais il y a la chose publique. En dehors de la réalité. En sortant de la commission.
Il y a une réalité, il y a de la surfacturation derrière. Il y a quand même
toutes les campagnes.
Oui, mais enfin, c'est pas une raison pour pas le.
Toutes les campagnes. On fait un benchmark et on sort tout le monde.
À propos de benchmark, justement, finalement, il faudrait peut-être regarder ce que font les autres pays qui ont été vers plus de transparence. Dieu sait que les financements de campagne américains et surtout leurs débordements sont pas exemplaires. Mais aux États-Unis.
Parce qu'il y a pas de plafond aux États-Unis.
Oui, mais aux États-Unis, il y a un truc bien. C'est qu'il y a une commission fédérale des comptes de campagne qui met tout en ligne, absolument tout en ligne. Et les citoyens peuvent voir, alors tout doit être communiqué, et les citoyens peuvent voir par eux-mêmes. Je pense que, moi je suis pas un malade de la transparence, mais je pense que sur ce phénomène-là, enfin cette incidence-là qui est l'élection présidentielle, ce genre de choses me paraît plus moderne et plus apte à détendre les uns et les autres sur la bonne conduite.
Mais vous savez pourquoi on en parle, parce que tout simplement parce que ça soit aujourd'hui de Benoît Hamon jusqu'à Emmanuel Macron, tous ces gens ont été remboursés, c'est de l'argent public aussi, hein, donc oui, c'est voilà, c'est pour ça que c'est important.
Mais c'est important. Bah, oui, et c'est de l'argent public et en principe ces commissions elles devraient être face aux citoyens, elle devrait être extrêmement pédagogique, parce que c'est ce que je trouve anormal, c'est que on n'a pas fait, je suis pas comptable, hein, honnêtement, ouais. J'ai bien écouté le parfait résumé que vous avez fait justement de cette affaire, je trouve ça extrêmement compliqué. Alors que aujourd'hui l'État devrait être et ces commissions devraient être vraiment au service du citoyen pour lui expliquer, pour être transparente, etc. Et ça n'est pas du tout le cas, et je trouve pas ça normal.
Il faut savoir comment, par exemple, pour aller consulter, alors les comptes sont publics. Mais pour aller consulter les documents, c'est un cauchemar. C'est-à-dire que ça ne peut pas sortir, il faut faire soi-même ses photocopies. Enfin, tout est fait à la commission pour que ça ne sorte pas. Moi, je me souviens qu'on avait travaillé sur un projet qui était le financement des partis politiques. Ils nous donnaient les partis 10 par 10 et sur du PDF, c'est-à-dire c'est totalement inutilisable. Il y a un côté vétuste. C'est-à-dire que ce soit un retraité de la vie politique, ils sont tous à peu près retraités de la vie politique, quand même. C'est des vieux monsieur, ou peut-être des vieilles dames d'ailleurs, je ne sais pas. Mais par ailleurs, il y a une vraie mauvaise volonté, pas de moyens. Et cette commission, aujourd'hui, elle montre ses limites. C'est-à-dire qu'elle ne sert pas, elle sert pas à grand-chose. On pourrait presque dire qu'elle
sert quand même.
Elle sert à rien. Non, c'est vrai. La commission à l'américaine, par exemple, effectivement, c'est un bon exemple, ne travaillerait pas comme ça. Donc, ça sert à quoi d'avoir une espèce de demi-commission qui fait à moitié son travail, qui valide des comptes qu'ensuite il dénonce à la justice?
Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi avec ce financement? Parce que nombreux sont ceux à se faire épingler. Je ne parle pas ensuite des histoires à la Big Malion, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème, justement, de financement à la base pour les partis politiques? On voit bien, il y a toujours de créer des micro-partis, des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec ces poulains aussi en France de financement?
Vous voyez, sur le prix des campagnes, ça pose question quand même, quand on voit le coût d'un électeur et après ce qu'on fait de cet argent et le fait que c'est de l'argent public en plus. Ouais. En disant, mais comment on en arrive là? En disant, mais parce que les partis n'ont plus d'adhérents. Enfin, les partis, c'est majoritairement des coquilles vides. Enfin, c'est extrêmement difficile. Ou alors, ils n'ont pas assez d'élus pour faire tourner la machine. Donc, la campagne, c'est la bouffée d'oxygène du parti. En disant, on met le paquet et on va récupérer le jackpot éventuellement. Et après, il y a le Parlement européen aussi qui est un beau jackpot.
Oui, c'est vrai qu'on l'a compris avec certains partis, en effet, que c'était ça. Il y a un problème, Audrey Goutin?
Oui, mais c'est vrai, c'est le prix des campagnes. On l'a vu, là, les centaines de millions d'euros, on l'a vu pour la campagne de Sarkozy, et cette espèce de course à l'échalote. Et on a vu, d'ailleurs, les problèmes juridiques que ça posait ensuite et toutes les affaires qui en ont découlé. Ouais. Il y a quelque chose de complètement anormal. Est-ce qu'on a besoin, pour se faire élire, de dépenser autant d'argent? Voilà. Et du coup, d'arriver à ces situations-là.
C'est une vraie question. Il faut la souligner, voilà, low exactement. Et bien ce soir, nous dormirons sur cette question. Allez, dans un instant, on va partir en Ukraine, l'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
Et le groupe État islamique revendique ce soir l'attaque de Liège en Belgique. Comme à chaque fois, l'information est annoncée par le biais de l'agence de propagande AMAC. Cette attaque a fait 3 morts, dont 2 policières, et l'assaillant abattu. Cet homme de 31 ans était un petit délinquant radicalisé. La veille, il avait tué un ancien co-détenu. Près de 350 personnes manifestent ce soir à Nantes en soutien à Maxime, cet étudiant qui a eu la main arrachée le 22 mai dernier sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes par l'explosion d'une grenade. Et les participants au rassemblement veulent également réclamer l'interdiction de ce type de munitions. Agnès Buzyn apporte les premiers soins aux EHPAD, une quinzaine de mesures annoncées par la ministre de la Santé pour mieux prendre en charge la dépendance dans ces maisons de retraite. Dès l'an prochain et sur 3 ans, quelques 360 millions d'euros seront consacrés au recrutement du personnel soignant. En attendant ce soir une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, le calme est revenu aujourd'hui entre Israël et la bande de Gaza après la plus sévère confrontation entre les forces israélienne et les groupes armés palestiniens depuis 2014. Israël dit avoir frappé 65 positions militaires du Hamas. Et puis le coup d'envoi du match amical de foot entre les Bleus et les États-Unis sera donné par le sélectionneur Aimé Jacquet, sélectionneur de 98. Ce sera le 9 juin à Lyon, à quelques jours du démarrage de la Coupe du Monde en Russie. Une sorte de passation de pouvoir avec l'actuel sélectionneur Didier Deschamps.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, voilà qui ne va pas rassurer les tenants de la théorie du complot. Bah oui, hein, puisque hier soir, les autorités ukrainiennes annonçaient l'assassinat du journaliste opposant au Kremlin, Arkady Babchenko. 24 heures après, à Kiev, se tenait une conférence de presse où est apparu, eh ben, Arkady Babchenko. Alors, est-ce lui revenant des morts, tel un nouveau Lazare, son frère jumeau, sûrement maléfique, ou alors un hologramme, on ne sait pas, en fait, rien de tout cela. Il s'agissait, en fait, d'une opération montée par les services spéciaux ukrainiens afin d'arrêter un vrai tueur qui avait le journaliste comme contrat. Une mission qui aurait été imaginée par les services spéciaux russes, une histoire folle qui bat l'imaginaire à plate couture, mais qui prouve une nouvelle fois le rôle de la presse en Russie ou dans les zones d'influence russe. Une opération qui ne pourrait être, en fait, qu'une respiration, selon la spécialiste du Monde russe, Hélène Blanc.
Si c'est une mise en scène, eh bien, je n'en vois pas beaucoup l'intérêt. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si le FSB a décidé de l'éliminer, eh bien, ce sera reculé pour mieux sauter. Sur le court terme, peut-être que c'est une victoire pour le service secret ukrainien, mais sur le long terme, je pense qu'ils arriveront quand même à l'éliminer d'une manière ou d'une autre. Ça sera sous la forme d'un accident, d'un suicide. Il y a beaucoup de journalistes qui sont tombés par la fenêtre récemment.
Voilà, donc, spécialiste du Monde russe, Hélène Blanc. Juste au départ, Audrey Goutard, sur l'affaire, enfin, c'est vrai, quand on l'a lu ce matin, enfin, cet après-midi, quand on a reçu,
mais oui,
c'est incroyable.
Incroyable. Et alors, je mettrai des conditionnels partout, hein. Moi, je n'ai aucun avis, ni non, sur la version ukrainienne, ni sur la version, etc. Mais bien sûr, c'est digne d'un roman, de Le Carré. C'est vrai que c'est étonnant. Moi, j'ai été surtout stupéfaite. Je regardais les images, là encore, de cette conférence de presse où cet homme est entouré de militaires. Mmh. Hein, et puis, il a l'air complètement accablé. C'est vrai qu'il a l'air, voilà, on a l'impression d'avoir un mort-vivant devant soi.
Et vous rendez compte
que
courant.
Sa femme n'était pas,
c'est
voilà ce que j'allais vous dire. Vrai, sa femme n'était pas au courant et il lui a expliqué qu'effectivement il avait dû jouer. C'est assez inquiétant sur l'état effectivement des services secrets et je pense que l'affaire n'est pas terminée.
Alors justement, Alexis Poulain, on a parlé bien sûr énormément de l'Ukraine. C'est toujours là la Crimée. Il avait pris une position hein, contre l'invasion russe en Crimée, ce journaliste. C'est pour ça qu'il s'était réfugié à Kiev. C'est toujours un endroit de tension extrême aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine.
Évidemment. Ouais. Enfin, il y a eu l'ouverture d'un pont récemment où Vladimir Poutine a traversé le pont en camion en disant ça y est, la Crimée c'est chez nous. C'est une zone de tension extrême qui n'en a pas fini d'en être une, qui crispe le reste de l'Europe, puisqu'on a au nord de l'Europe, dans les pays baltes, aussi une peur de dire avec les communautés russes, de dire pourquoi ce scénario ne se reproduirait pas ici. Donc on a eu la présidente estonienne qui allait voir Donald Trump en demandant davantage de troupes américaines et de troupes de l'OTAN, et l'OTAN une stratégie maintenant de renforcer la présence frontalière. Il y a les grandes manœuvres qui vont commencer de l'OTAN aussi avec l'opération Cyber Strike où les militaires américains d'un côté, et puis Zapad, où les Russes, alors soi-disant 10 000 soldats mais il serait 100 000, font les grandes manœuvres sur le principe justement d'une attaque des Européens.
Et puis nos relations économiques avec la Russie sont toujours bloquées avec...
Alors, plus ou moins, enfin là, il y a eu la visite d'État était là pour ça. En fait, on commence à voir aussi un dégel européen en disant, mais peut-être qu'avec la Russie, on devrait faire quelque chose. Et ce qui se passe en Ukraine, effectivement, je pense que c'est aussi une guerre diplomatique de dire, hé, nous oubliez pas, si jamais l'Europe devient une grande amie de la Russie, que va devenir l'Ukraine? Et il y a un vrai risque, effectivement, de dire, bon là, ça peut devenir une zone de tension beaucoup plus chaude.
Romain de Salle, quand on s'est rendu compte avec ça, voilà, ce rapport aussi à la vérité. Depuis hier soir, voilà, c'est assez effrayant parce que c'est vrai que il y a eu un réflexe, je pense, de beaucoup de gens quand on a dit un journaliste abattu de 3 balles dans le dos. On s'est dit encore un, voilà, en Russie ou en Ukraine.
Mais effectivement, je pense que il y a quand même l'émergence de la question de la vérité. C'est quand même un truc qu'on n'a jamais, enfin, qu'on ne posait pas à côté de la question de l'État. La base du contrat social ou du contrat politique même, c'était que la parole de l'État, l'État pouvait mentir, hein, bien entendu, l'État pouvait planquer des trucs, mais l'État ne mentait pas. Deux secondes. L'État vient vous dire, ah ben on a manipulé le truc. On a manipulé le truc. Donc l'État, quand même, enfin, j'ai aucune idée, je pense qu'il l'a sans doute fait pour de très bonnes raisons, etc. Je juge pas. Mais enfin, l'État montre une manipulation. Et moi, je voudrais juste faire le rapprochement avec cette émergence de la question de la vérité, avec ce qui est en train de se jouer aujourd'hui en France, la loi sur les fake news.
Qui arrive la semaine prochaine.
Ouais, ouais. Où l'État français est en train de définir ce que c'est que le mensonge, et donc est en train de définir ce que c'est que la vérité. Ouais. Et je trouve ça, alors pour le coup, ultra choquant. Et je trouve que l'émergence de la vérité à côté de l'État est un truc qui est assez emmerdant.
Et une chose, Éric Métou, il y a Reporters sans frontières, voilà, qui a parlé d'un grand soulagement, mais tout de même, en signalant, il est navrant et regrettable que les services ukrainiens aient joué avec la vérité. Voilà, quel qu'en soit le motif, hein, précise
Reporters sans frontières. J'aime beaucoup mes amis de Reporters sans frontières. Je pense qu'ils auraient, enfin, ils n'ont pas à se mêler de ça, quoi. Ouais. C'est au-delà du problème qui s'occupe des journalistes qui sont vraiment tués en Russie, et il y en a un paquet, commencé par non mais je veux dire, c'est pourquoi est-ce qu'on y a tous cru, c'est parce que tout va trop crédible, parce qu'il y a énormément de monde de morts, c'est un peu comme si on annonçait la mort d'un journaliste au Mexique, c'est hélas le quotidien des journalistes
c'est pour ça aussi qu'on utilise tous ces adjectifs terrifiants, stupéfiants, etc. C'est que dans notre société française très policée, finalement on n'a pas du tout l'habitude de voir ce genre de choses. C'est pour ça qu'on a cru à l'histoire. C'est-à-dire qu'une manip d'un État, enfin, on en a évidemment, mais de façon aussi ouverte et aussi évidente avec une conférence de presse, ça c'est du jamais vu.
Allez, ça doit se terminer, les informés France Info. Désolé Alexis Poulain, merci beaucoup en tout cas d'être passé ce soir. Merci Romain De Sanne, merci Audrey Goutard. La une de l'Express, Eric Pétou.
Puisque vous n'avez pas voulu qu'on parle de laïcité et de Jean-Michel Blanquer, il y a tout dans l'Express cette semaine avec une très longue interview du ministre de l'Éducation.
De Jean-Michel Blanquer.